Paris, c'est un bonheur et c'est un problème, n'a plus changé de forme depuis 160 ans, depuis le 16 février 1859 exactement, date de la remise illustrée par un célèbre tableau du décret d'annexion des communes limitrophes signé par Napoléon III à son préfet Haussmann. Il y a là une unité de lieu qui fascine et qui désespère, une injonction contradictoire à la prudence et à l'audace. On aimerait que l'architecture contemporaine, comme dans les appels à projets réinventer Paris, comble la cicatrice du périph' et déborde le moins possible à l'intérieur. On rêverait en même temps de rééditer l'exploit moderniste absolu du centre Pompidou en évitant cependant de revivre le traumatisme un peu surjoué des Halles ou de la tour Montparnasse. C'est dans cet environnement intellectuel très contraint qu'est survenu l'incendie de Notre-Dame. Si l'essentiel, le chevet, la façade, la nef et les rosaces ont survécu, le pire est peut-être à venir et on ne s'épargnera pas les dégâts irréversibles d'une nouvelle polémique architecturale. L'ancien ou le moderne, le grand geste ou la reconstruction respectueuse, Santiago Calatrava, qui voudrait que nos villes ressemblent à un cimetière de cachalot, ou Didier Rickner, l'animateur du très conservateur site La Tribune de l'Art, qui voudrait que Paris redevienne ce qu'il était au temps des Misérables. Je suis certain, à ce propos, que Hugo n'aurait jamais écrit Notre-Dame de Paris s'il n'avait pas discerné un énorme H dans la façade de l'édifice. Les journaux présentent régulièrement, depuis l'incendie de la cathédrale, les projets de fin d'études de tous les cabinets d'architecture qui se sont lancés dans le défi de la reconstruction. Le vert est très présent, ainsi que le végétal. Vouloir que tout ressemble à une serre, c'est, après les monstrueux murs végétaux des années 2000, l'un des plus agaçants tics de l'architecture contemporaine quand elle veut plaire au grand public. On remarque aussi de nombreux projets raffinés, ciselés et décoratifs. La chose a toujours plu, et j'ai moi-même pu trouver dans le même genre les verroteries de l'entrée du métro ou du Palais Royal élégantes, avant de remarquer le grand 8 en aluminium qui sous-tendait la structure et qui ridiculise l'ensemble en indiquant que si l'artiste, si précieux, si habile, si doué en apparence, avait surtout échoué à donner à son intuition une autonomie architectonique. Une autonomie architectonique, c'est encore aujourd'hui la grande leçon de Notre-Dame. L'autonomie architectonique, en langage moderne, cela se dit architecture durable. Ce n'est d'ailleurs pas Notre-Dame qui a brûlé, la structure est intacte, c'est pour l'essentiel le décor de Viollet-le-Duc qui s'est évaporé. Le scandale principal n'était pas d'ailleurs de son fait, il n'était pas dans la réinvention d'une flèche, mais dans l'agrandissement contre nature du parvis. Les cathédrales ne sont pas faites pour être vues ainsi, toutes petites, au fond d'une place trop grande. Ce qui vaut pour Saint-Basile à Moscou ne vaut rien pour Notre-Dame. L'idée de la cité est peut-être l'île de la cité est peut-être le grand échec du baron Haussmann. Le boulevard du Palais est la plus triste des avenues parisiennes. Le marché aux fleurs est grotesque. L'hôtel de ville abominable. Quoique cela m'enchante qu'on puisse encore naître et mourir sur l'île primitive, y être baptisé et condamné à mort. L'incendie de Notre-Dame a par ailleurs éclipsé un projet à sa manière tout aussi dévastateur, celui que Hollande avait commandé à Dominique Perrault et que l'architecte avait dévoilé il y a quelques années à la conciergerie. Il s'agissait alors d'imaginer le futur de Lille après le déménagement du palais de justice et de la PJ au Batignolles. L'avant-projet montrait quantité de verrières joyeuses dans les cours des administrations, enfin rendues au public, à moins qu'il ne s'agisse plutôt de puits de lumière destinés à éclairer cette longue barre souterraine dont les plans spécifiaient peu la fonction, mais qui ressemblait à un centre commercial. 13 millions de visiteurs annuels, la chose devait faire rêver chez Sephora. Le parvis serait enfin lui rendu aussi transparent et des marches descendraient majestueusement vers la Seine. Je ne sais pas ce qu'il en est de tout cela, de ce projet, mais c'est de là, en tout cas, que je partirais pour reconstruire la flèche de Notre-Dame et lui donner le caractère durable qui séduit tant aujourd'hui. Je ferai d'abord du parvis une descendrie chronologique en utilisant du no man's land touristique au parking, en passant par la crypte archéologique, toutes ces couches comme des degrés. Je restaurerai ensuite les berges telles qu'elles étaient à la création de Lutèce et la flèche comme une métaphore du retour à la terre prophétisée par Latour dans Où atterrir, au lieu de monter au ciel, viendrait s'abreuver là dans la boue babélienne du fleuve ensauvagé.